Et ce matin, dans ces quelques minutes, je voudrais partager sur la vaillance requise aux disciples de Christ. La vaillance requise aux disciples de Christ. Nous avons partagé beaucoup de choses au courant de la semaine, depuis lundi jusqu'à hier. Et je voudrais résumer en peu de mots que nous pouvons être disciples de Christ à la mesure que nous commençons par la conversion authentique. On ne peut prétendre disciple de Christ si on n'est pas passé d'abord par la porte qui nous y amène. La nouvelle naissance authentique, la conversion authentique. Je voudrais nous inviter chacun à s'assurer ou à vérifier si j'ai déjà connu la nouvelle naissance, si je suis déjà né de nouveau, parce que on ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Il faut naître de nouveau d'abord et puis s'exercer à être disciple de Jésus-Christ. La deuxième pensée que nous avons partagée au courant de la semaine, c'est que dès l'instant où je suis né de nouveau, pour que je sois disciple de Christ, il faut que je connaisse c'est qui c'est Christ. C'est-à-dire, un disciple d'un maître qui ne le connaît pas n'ira pas loin. D'ailleurs, la force d'un disciple, c'est la connaissance intense, large, profonde de son maître. Dans le monde, on a vu des hommes choisir tel professeur comme son maître, ou tel sportif, tel star musical comme son maître. Si un choriste veut être disciple de X, tu n'as qu'à connaître correctement et suffisamment ce maître afin que tu parviennes finalement à percevoir l'esprit de cette personne et à pouvoir t'accrocher ou saisir l'esprit de cette personne. Alors, tu seras son disciple. Nous avons beaucoup de gens qui ont essayé d'être disciples de X ou de Y, mais qui, n'ayant pas réussi à pénétrer l'esprit de cette personne, ils n'ont pas subsisté comme disciples de cette personne. Il en est de même pour Christ. Je veux être disciple de Christ. Je ne saurais pas l'être si je ne parviens pas à percevoir l'esprit de Christ. Et les hommes qui ont découvert l'Esprit de Christ, ils se sont convertis. Ils ont décidé de devenir enfants. Je te conseille ce matin, ne rentre pas sans donner ta vie à Jésus. Il se peut que tu aies déjà fait beaucoup de temps dans l'Église. C'est bon. Du reste, je l'ai dit au premier jour, la plupart d'entre nous, on ne s'est pas convertis au premier coup où on a écouté la parole. Il y a eu un processus, il y a eu un travail. On a été exposé à l'Évangile une fois, deux fois, cinq fois, 30 fois. Finalement, c'est cette sorte de semence dans notre cœur a fini par exploser ou déclencher notre salut. Et l'ayant connu, nous sommes devenus ses enfants. et il y a tous les bénéfices qui suivent. Maintenant, nous avons appris sur Christ qu'il était intéressant comme maître. Il en était digne. Christ est digne d'être notre maître. Pour plusieurs raisons, nous en avons parlé en réfléchissant sur quel intérêt choisir Christ comme mon maître. On a vu beaucoup de choses à ce sujet. Nous avons vu qu'il est digne d'être notre maître parce qu'il est le maître de l'histoire. Et on a partagé plusieurs choses. Nous avons vu aussi qu'il est celui qui règne légalement dans l'univers. Et nous avons vu hier avant-hier quelques caractéristiques du disciple de Christ. On en a parlé de 6 caractéristiques, dont la dernière était stipulée, les disciples développent un cœur de vaillance pour les intérêts de son maître, comme le faisait Jésus-Christ pour le Père, son maître. Et ce matin, j'ai voulu qu'on s'attarde bien sur cette 6e caractéristique. Et les 2 textes que nos sœurs viennent de lire nous introduisent dans cette méditation. Alléluia. Alléluia. En fait, les cœurs de vaillance est ce qu'il te faut pour demeurer disciple de Christ. Ça demande du courage, du zèle et de la vaillance pour subsister comme disciple de Christ. Dans Matthieu 11, verset 12, qui nous a été lu tantôt, il est écrit, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » On pourrait dire, ce sont les vaillants qui s'en emparent. Et dans Romains, chapitre 12, verset 11, il est écrit, « Ayez du zèle ou ayez de la vaillance et non de la paresse. » Soyez fervents d'esprit, servez l'Éternel. On ne peut servir Dieu sans zèle. Dieu n'a que faire de ce christianisme, des personnes qui sont juste chrétiens, qui sont juste là. Dieu n'a que faire de ces chrétiens qui se limitent à s'assurer que leur nom sont inscrits dans le livre de vie et ils attendent que la trompette sonne un jour pour qu'ils partent au ciel. Dieu n'a que faire de ces chrétiens qui ont un pied dedans et pied dehors, mais qui sont beaux comme chrétiens. Ils ont appris et acquis à avoir la forme extérieure du christianisme, mais là-dedans, il n'y a rien de Christ. Paul dit, les gens, dans les derniers temps, ils aimeront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Ayez du zèle et non de la paresse. Dans Jean chapitre 2, versets 15 à 17, qui nous a été tantôt lu, il est écrit, Jésus dit, « Et afin un fouet avec tes cordes, il chassa les vendeurs du temple. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Et il dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Et j'aime le verset 17, il dit, ses disciples se souvèrent qu'il est écrit, le zèle ou la vaillance de ta maison me dévore. Comment tu te sens quand tu viens à l'église? Comment tu te sens lorsque tu observes qu'il y a autour de toi plus de perdus que de sauvés? Comment tu te sens lorsque tu apprends des choses? Quelquefois dormir debout dans les églises, on apprend que tel a fait ceci et tel a fait cela. Ça t'énerve, ça te choque, ça suscite quoi? Ça te révolte, ça remue quoi dans ton cœur? Comment nous nous sentons face à cette dégradation de la vie chrétienne dans notre monde? Comment nous nous sentons face à des défis du royaume de Dieu qui subsiste et qui demeure, et personne ne sait quoi faire, et nous sommes comme désarmés devant des réalités qui se passent autour de nous dans le christianisme ou dans notre église. Comment nous nous sentons? Y a-t-il ce matin quelqu'un qui voudrait se lever et dire, « Seigneur, donne-moi de cela. Enflamme mon cœur. » Alléluia. Ce qui est triste, c'est que certaines personnes parviennent même à chercher Dieu, non pas pour les intérêts de Dieu, mais pour leur propre nom, pour leur gloire, pour leur position sociale, pour tout ce que vous connaissez. Et on peut voir quelqu'un assidu, mais ses motivations n'ont rien à faire avec Dieu ni avec son royaume. Assidu dans la chorale, assidu dans le ministère, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien de Dieu, il n'y a rien d'intérêt pour Dieu dans ce qui se passe dans leur cœur. Ce qui est grave, j'aimerais te le montrer, c'est qu'il a fallu du zèle, même pour Jésus-Christ, de sauver l'humanité. Il a fallu de la vaillance pour le Sauveur, notre Maître. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 1er jusqu'à 7, nous voyons une série de choses qui se développent. L'apôtre Jean, à l'île de Patmos, a cette vision. Il voit un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux, tenu par Dieu le Père. Il est écrit, celui qui est assis sur le trône tenait un livre scellé de sept sceaux. Et un ange puissant crie d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais personne ne fut trouvé digne de regarder le livre, ni d'en rompre les sceaux. Au ciel, sur la terre, ni sous la terre, personne. Personne. Et naturellement, au verset 2, il est écrit, et l'apôtre Jean, il pleurait. Il dit, j'ai pleuré beaucoup, parce que personne ne fut trouvé. J'ai pleuré beaucoup. Je vois un objectif du salut de l'humanité. Je vois les livres programmes du salut de l'humanité qui est exposé. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Mais qui se lève pour le faire? Et j'ai pleuré beaucoup. C'est le cas de beaucoup de pasteurs qui pleurent beaucoup lorsqu'ils voient les membres de l'Église amorphes, lorsqu'ils voient les membres de l'Église paresseux, lorsqu'ils voient les membres de l'Église indifférents à la cause de Dieu. J'espère que ce n'est pas comme ça ici chez vous. N'est-ce pas? Mais la souffrance des pasteurs, c'est lorsque il vous enseigne pendant 10 ans et que vous restez le même. C'est lorsqu'il investit en toi comme membre de l'Église et il espère que tu produiras du fruit. Il espère que tu vas te lever. Il espère que le travail qu'il fait en toi va au moins te réveiller, va au moins te dire, regarde, je peux faire quelque chose moi aussi. Mais il constate que tu restes indifférent. S'il y a quelque gloire à partager, tu te présentes. Quand il y a quelque avantage, il y a un décès chez moi à la maison, pasteur, il y a un enfant qui tombe malade à 3 heures du matin. Pasteur, le téléphone sonne. Il y a un membre qui est hospitalisé. Pasteur, nous sommes à l'hôpital. le récepteur universel. Le christianisme de récepteur. Tous les jours, tu veux recevoir. Quand est-ce que tu commenceras à donner? Qu'est-ce qui te manque? Il te manque du zèle. Il te manque la vaillance. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Servez l'Éternel. Soyez fervent d'esprit. Et l'apôtre Jean, il pleure. Heureusement, un des vieillards lui dit, ne pleure plus, c'est bon, c'est réglé. Les lions de la tribu de Judas, les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres. Et c'est sept sceaux. Et le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau. On peut acclamer l'agneau. J'ai vu un agneau qui était là, comme immolé. Il vint et il prit les livres de la main de celui qui était assis sur le trône. Un agneau se lève et il dit, moi j'y vais. Quel est cet agneau? Notre maître Jésus-Christ. Dans Hébreux 10, verset 5, il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. J'ai dit, voici, je viens, ô Père, pour faire ta volonté. Je viens. Il a fallu de la vaillance pour Jésus lui-même de nous sauver. J'aimerais te conseiller de comprendre qu'il te faudra de la vaillance pour que ta famille soit sauvée, pour que ton quartier soit sauvé, pour que la ville de Goma connaisse Christ. Il faut de la vaillance pour que les nations connaissent Christ. Il nous faut de la vaillance pour que Christ sauve l'humanité. Il lui a fallu de la vaillance. Nous ne produirons rien sans vaillance. Et Dieu nous appelle à être vaillants. Alléluia. Alléluia. Il lui a fallu de la vaillance. Quand vous regardez à la fin de sa mission, quand il doit monter à Golgotha, à Gethsémané, Luc chapitre 22, versets 41 à 44. Il s'éloigne des disciples et se met à genoux pour prier. Écoutez sa prière. Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Il réalise la gravité de ce qu'il a accepté de venir faire. Mais comment tu vas t'en sortir? Parce que tu veux fuir la mission, tu veux t'échapper. Heureusement, l'esprit de vaillance le saisit en même temps et il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. On peut acclamer Jésus pour sa vaillance. Non pas ma volonté, mais la tienne. Il est écrit au 44, étant en agonie, faut-il de l'agonie pour aller sauver l'humanité? Oui, de l'agonie. Les vaillants rencontrent de l'agonie. Étant en agonie, ils priaient plus intensement. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient en terre. Et quand il monte à la croix, ce n'est pas facile. Matthieu 27, 46 le dit bien. Il crie, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il monte à la croix, non comme Dieu, parce qu'on dirait, mais c'est facile, vas-y, tu es Dieu. Il monte à la croix comme humain. Et il réalise la chose dans sa chair. Il réalise le coup dans son humanité. Puis, L'apôtre Jean nous révèle dans Jean 19, 30, quand il eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Baissa la tête et le rendit l'esprit. C'est Christ qui accomplit sa mission grâce à un cœur de vaillance, ne peut que donner des éloges à un autre vaillant. Jean-Baptiste, dans Matthieu 11, 7 à 14, que nous avons lu, il dit, je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents, ce sont les vaillants qui s'en emparent. Pourquoi tu n'as pas évolué dans ta vie chrétienne jusqu'à présent? Parce que tu n'as pas laissé ton cœur entrer dans les lots, dans cet environnement, dans cet esprit de Christ, notre maître, un vaillant, Jésus-Christ. Nous pouvons citer plusieurs vaillants dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. La Bible est pleine de tous ceux qui ont laissé un impact dans l'histoire de la Bible et même dans l'histoire contemporaine. Regardez-les, écoutez-les, observez-les. Vous allez constater que ces sixièmes caractéristiques a été leur force, la vaillance. Prenons David. Avant qu'il soit roi et pendant qu'il est devenu roi, est un modèle criant de l'Ancien Testament en matière de vaillance. Mais si vous regardez l'essentiel de tous ces hommes dans la Bible que vous lisez dans l'Ancienne Alliance, vous trouvez que c'est de la vaillance. Il respirait de la vaillance. David, dans 1 Samuel chapitre 17, il vient de faire tomber Goliath. Et au verset 55, le roi Saül pose la question à Abner. Il vient d'observer un comportement inhabituel. Il vient d'observer un jeune homme qui fonctionne différemment. Il vient de passer 40 jours au front, sans suite. Goliath est présent, ni lui le roi, qui le jour où il a été choisi comme roi, le prophète dit, il était le plus géant de toute la nation, costaud comme il était, digne d'être appelé roi. Lui aussi, il a été au front, avec l'armée pendant 40 jours, sans suite, jusqu'à ce que la providence de papa Isaïe, de penser à ses fils, les aînés, les grands frères de ce jeune homme, envoie un peu de nourriture à tes grands frères. Et le petit arrive au front, vaillant, jeune homme, d'environ 17 ans. Il affronte Goliath. Quand il court devant Goliath, Saül observe. Parce que c'est entre la vie et la mort. Ce petit est en train de nous exposer. S'il échoue, nous sommes foutus. Et Saül regarde avec sa tête, son corps, ses yeux, son esprit. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, David courut. Les vaillants courent, ils n'attendent pas. Les vaillants foncent. Les vaillants, ils avancent. Les vaillants n'attendent pas que les autres fassent. Les vaillants avancent, que vous les vouliez ou pas. Les vaillants avancent, quand même c'est le péril. Quand même c'est pour la vie et la mort. Il est écrit dans ce texte, Goliath, le maudit par ses dieux. Goliath, le maudit par ses dieux. Et David lui répond au verset 45. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Il n'a pas dit entre nos mains, entre, vous avez lu le texte. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Je peux vous voir? Vous êtes tellement calme que j'ai l'impression que vous êtes absent. Alléluia. Regardez. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai. Tu es sûr, jeune homme? Les hommes d'armée viennent de passer 40 jours ici. Qu'est-ce que tu es prétentieux, comme a dit Eliab? Petit, c'est ta curiosité qui t'a amené ici. Tu es trop curieux. D'accord, mais vous, vous êtes là depuis 40 jours, vous n'avez rien fait. Laisse ma curiosité vous aider. Il dit, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Quelqu'un est-il ici et qui croit au Dieu qu'il a reçu dans son cœur? Est-ce que tu crois au Dieu que tu as reçu? Je peux te voir, tu crois à Dieu? On vient de le confesser, je crois à Dieu. Est-ce que tu crois à Dieu? Vous savez, ça peut devenir juste une récitation. Voilà quelqu'un qui croit à Dieu. Il avance, il fonce. Il fonce. Je t'abattrai. Je donnerai ton sang aux oiseaux du ciel. Et toute la multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre, la lance avec sa fronde, et il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, les tua. Et lui coupa la tête. Les Philistins voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. C'est cette scène que Saül vient d'observer. Et il pose à Eliab, à Abner, la question. De qui ce jeune homme est-il fils, Abner? Autrement, l'esprit que nous venons d'observer, l'esprit avec lequel ce jeune homme fonctionne, on n'a jamais vu ça. D'abord, c'est un jeune homme non expérimenté. On ne l'a pas vu dans l'armée. Il n'a pas fait les services militaires. Mais la manière dont il s'y prend, la manière dont il monte et les paroles qui sortent de sa bouche, c'est comme si nous autres, on n'a jamais entendu parler de Dieu. Oui. Quelle est la différence entre David et Saül? La vaillance. La vaillance. Alléluia. Dites à ton voisin la vaillance. Dis-lui encore, frère, la vaillance.
Abner répondit au roi. Tu as raison, Abner. Aussi vrai que ton âme est vivant. Ô roi,
je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils et dis-le-moi. Et quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Est-ce que vous voyez la scène? Vous mesurez la réalité qui se passe. David vient sur sa main, il y a la tête du géant. Ça doit avoir été une grosse tête. Parce que le monsieur était suffisamment géant et gros. Et il amène la grosse tête du vaillant des Philistins. Et Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Tu peux demander à ce voisin-là, de qui es-tu fille, jeune fille? De qui es-tu fils, papa? Il est question des fils. Il est question des disciples du Père. Il est question de qui est mon maître? De qui es-tu fils? Autrement, qui est ton maître, jeune homme? Nous avons eu des formateurs qui nous ont formés en guerre ici. Mais toi, tu as appris où? Regardez la réponse de ce jeune homme. Et David lui répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. Un homme inconnu, mais qui a pris soin de former son fils comme héros. Que le Saint-Esprit t'amène et te forme comme héros. Les serviteurs de Dieu sont ici nombreux et ils prennent le temps de nous amener, n'est-ce pas? Si tu peux accepter l'esprit de vaillance. Vous savez, quelquefois, les pasteurs, quand ils prêchent au cimetière, on a tendance à colmater des informations ou des témoignages. Ce papa, il était tout le temps à l'église. Ce papa, on essaie de fonder même des choses. Pourquoi devrons-nous fonder des choses sur ta vie? Il est possible que si aujourd'hui tu acceptes le chemin de la vaillance, comme Jésus-Christ, notre maître, le pasteur n'aura pas besoin, le jour où tu quittes la terre, il n'aura pas besoin de fabriquer des choses. Ça sera évident. La ville de Goma saura que tu es parti. Qu'importe, tu peux dire, écoute, moi je suis juste une femme de ménage. Femme de ménage, oui, si tu deviens vaillante, ta renommée, nous avons vu, la renommée de Christ pouvait s'étendre dans toute la région. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un par qui accomplir ses missions, ses défis, ses objectifs. Va-t-il les trouver ce matin dans cette salle? Va-t-il le trouver? Alléluia. La victoire de David lui suscite de la haine du roi. Et le roi le poursuit pour le tuer pendant environ 15 ans. Il est roi déchu. Et toute l'armée de l'État, il engage pour essayer de tuer un jeune homme. Quand nous sommes héros, quand nous sommes vaillants, quand nous sommes avec Dieu, écoutez, il est écrit, 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quand nous sommes vaillants, Nous plaisons à Dieu. C'est pourquoi Christ témoigne de Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. Et quand la crise commence, dans 1 Samuel chapitre 22, verset 1 à 5, David doit fuir. Il est vaillant, mais il est sage. Un jour, Saül est comme une victime sur un plat dans une caverne d'Adoulam. Et les hommes de David lui disent, cette fois-ci, Dieu t'amène ton ennemi sur un plat. Transperce-le et puis c'est fini l'affaire. Beaucoup d'avantages à cela, c'est-à-dire nous prenons le pouvoir au lieu de continuer à attendre. De toute façon, tu es déjà le roi. Tu es loin. On arrête ces messieurs et puis nous continuons. Mais ces vaillants héros, ces vaillants disciples de son père Isaïe connaît la parole et dit, loin de moi de porter ma main sur loin de l'Éternel. Il est en fuite. Avec qui? Avec ses disciples. Ses disciples. Dans 1 Samuel chapitre 22 verset 1 et suivant, il est écrit, tous ceux qui, au verset 2, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, qui avaient des créances ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef, il devint leur coach, il devint leur... Les gens désespérés, stressés dans la vie. Et David, vaillant, les convertit en vaillants, eux aussi. Il est puissant parce qu'il a choisi le chemin de la vaillance et par sa vaillance, il entraîne ses mécontents, ses délaissés, ses endettés. Il les convertit en vaillants aussi. De telle sorte que dans 2 Samuel chapitre 23, nous pouvons lire ce chapelet des vaillants hommes de David. Au verset 8, voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Jochebed, qui fit quoi? Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une fois. Tu as appris ça où, monsieur Jochebed? J'ai appris ça de mon maître David. Mais Christ ne nous a-t-il pas laissé des leçons de vaillance dans les Écritures? Paul dit dans Éphésiens 5, 1, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et on voit Paul aller dans les villes, les villages, voyager dans les bateaux. Je le vois encore lorsqu'il parle en plein naufrage et dit, le Dieu que je prie m'a dit que nous allons survivre. La cargaison va être perdue, mais ayez courage et soyez calme. Ah bon? Paul, soyez calme. Mais tu vois que le bateau est déjà cassé. Il dit oui. Et sur des morceaux, ils accostent à Malte. Et puis un serpent le pique, une vipère dans ses temps de feuilles. Il essaie de chauffer, d'allumer du feu pour chauffer les gens qui ont été sous le naufrage. Et les hommes du lieu disent, ah, c'est vraiment ce monsieur-là qui est porte-malheur. Parce que d'abord le naufrage et puis un serpent sur la main, non, c'est lui. Et ils attendaient qu'il meure. Mais Paul reste calme, vaillant. J'imagine Paul est en train de dire dans son cœur, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Vipère, tu es fini. Et ton venin dans ma main n'ira nulle part. Et ce fut ainsi. Et il subsiste. De sorte que ces mêmes gens qui disaient il est en train de mourir reviennent à leur considération et disent, ce doit être un dieu ce monsieur-là. Quand tu vas marcher comme un vaillant, certains penseront que tu es un dieu. Mais ce qui est essentiel, ce n'est pas ce que les gens diront de ta vie, ce que les gens diront de toi. Ce qui est essentiel, c'est que tu accompliras les desseins de Dieu. Un, pour ta destinée. Deux, pour la destinée des autres, parce que nos destinées sont interconnectées. Est-ce que tu sais ça? Il y a des éléments de ma destinée dans ta destinée. Si tu ne te lèves pas comme vaillant, tu vas mourir avec des portions, des provisions de ma destinée. Et je vais te le demander au ciel. Peut-être je vais te boxer là-bas pour dire, tu vois ce que tu as fait là? C'est ta faute. Alléluia. Nous avons besoin de nous lever ce matin, frères et sœurs. C'est fini, cette vie chrétienne morne, cette vie chrétienne de paresseux, cette vie chrétienne linéaire, cette vie chrétienne qui laisse à désirer. On a les pieds dedans, les pieds dehors, on ne sait où on va, suis-je chrétien ou non. Nous sommes fatigués de cette vie-là, frères et sœurs. Ce matin, ne sors pas comme tu es venu. Que le Saint-Esprit t'aide à percer l'esprit de vaillance de ton maître. On l'appelle Jésus. On l'appelle Jésus. Alléluia. Alléluia. On peut voir cela dans la vie de Moïse. Moïse grandit chez Pharaon. Au palais, a appris des choses. Il a essayé d'exercer sa vaillance, mais ce n'était pas encore le temps. Et il est parti à Madian. Et puis Dieu vient le chercher et lui dit, « Va, sors mon peuple de l'esclavage de 400 ans. » Vous pouvez mesurer comment Moïse se présente devant ses pharaons et qui lui dit, laisse partir le peuple de Dieu afin qu'il serve Dieu dans le désert. Quelle vaillance! Tu es sûr que tu es. Tu parles avec qui, Moïse? Je parle au Pharaon. Je parle au Pharaon. Je vois ce jeune homme. Vous pouvez voir ceci dans Exode 3, c'était suivant. Ce jeune homme, Gédéon, qui. Sept ans durant, ils sont en train de courir se cacher, d'être pillés, d'être ruinés. Et dans son cœur, il dit, mais attends, où sont tous ces miracles dont nous parle? Qu'il y a un Dieu, nos grands-pères nous racontent. Ils disent que nous avons un Dieu. Oui, Gédéon, tu as déjà commencé à être disciple de ces dieux-là sans les savoir. Et Dieu t'a déjà remarqué. Il envoie un ange. Alléluia. Et l'ange vient et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros. La réponse de Gédéon, c'est, mais si l'Éternel est avec nous, où sont tous ces miracles? Regarde, là je suis en train d'arranger le blé. Nous allons bientôt fuir parce que c'est la récolte et nos ennemis vont arriver la septième année. Pourquoi tu choisis ce jeune homme? J'ai vu la vaillance, j'ai vu l'esprit de vaillance dans son cœur. Je suis venu lui confier la mission. C'est lui qui va accomplir la tâche. Gédéon. On peut regarder dans le parcours de Paul, dans Actes chapitre 9, au premier verset, il est écrit, « Saul, respirant encore la menace, païen de son nom et disciple de Gamaliel, il connaît la Bible, il connaît le Torah, il connaît, mais il n'a rien de Christ le Sauveur. » Et il prend les lettres pour aller persécuter l'Église. La Bible dit, respirant encore la menace. D'accord, hier, tu as respiré la menace contre les disciples. Mais après que Jésus l'ait rencontré sur la route, il a commencé à respirer les saluts des âmes. T'as-tu respiré quoi hier? Tu respirais impudicité, tu respirais colère, tu respirais quoi? Tu respirais méchanceté, tu respirais tout ce que tu connais. Mais après que tu aies rencontré Christ, tu respires quoi? Paul, lui, quand il a fini de rencontrer Christ, sa vie connaît un tournant. Et il dit dans Romains 15, 14 à 19, vous pourrez lire cela au verset 18, il dit, « Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas fait par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. » Il dit, « J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Illyrie. » Waouh! Toi, tu diras quoi à la fin de ta vie? Tu diras quoi? Quand vous lisez la Bible de Genèse Apocalypse, vous allez constater que c'est tout ce que Dieu attend aujourd'hui des chrétiens. J'ai dit avant-hier, quand vous mesurez le nombre de croyants sur la terre, les statistiques donnent autour de 3 milliards sur 7 ou 8 milliards. On pourrait dire, mais Satan a gagné dans cette affaire. Comment Dieu ajuste le minimum et le diable à les deux tiers? Pourquoi ça doit être comme ça? Et toi qui es ici, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ça fait 10 ans. Tu as amené à Jésus combien d'âmes? Qu'est-ce que tu fais à l'église ici? À quoi ça sert ta présence dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons là? Il dit, j'ai répandu l'évangile. Ce qui est intéressant, lorsque Dieu repère un cœur vaillant, il vient le soutenir. La Bible déclare, l'Éternel parcourt la terre de son regard, le globe de son regard, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ose, tu vas voir que Dieu va s'élever avec toi. Il est écrit dans Hébreux 6, versets 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle ou la même vaillance pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la vaillance, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Imitons ceux qui, par la foi et la vaillance, hérite les promesses. Et dans Hébreux 11, versets 32 à 34, l'auteur dit, « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, Samuel et des prophètes, qui par la foi vaincurent les royaumes, exercèrent la justice, obtèrent des promesses, fermèrent la guerre des lions, éteignirent des puissants, la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées entières. » Quelle leçon nous tirons de toutes ces vaillances? La première, c'est que la connaissance claire et consistante du maître de Christ conduira à la vaillance. Deuxième leçon, il faut un choix, une décision sincère et authentique de devenir disciple de Christ, notre maître, par la conversion, l'édification et l'exercice. On en a parlé. Troisième leçon, il faut de la constance dans la marche avec Jésus-Christ. Dans la marche, quatrième leçon, il faut approfondir dans notre vie de disciple. Il faut approfondir notre relation avec Dieu. Il faut nous approfondir dans notre connaissance de ce que le maître est et de ce que le maître a. Je connais ce qu'il est, je connais ce qu'il a. Et comment je m'approfondis par la prière, la parole, l'obéissance, le Saint-Esprit et l'action. L'action. Avant que je revienne sur ces éléments, regardez avec moi un dernier élément dans 1 Samuel chapitre 14. Quand vous lisez chapitre 13, il y a un problème dans le pays. Les Philistins ont initié une stratégie de confisquer les armes de leurs ennemis parce qu'il n'y avait pas de forgerons. Je crois qu'ils se sont arrangés d'aller donner du poison aux forgerons pour que dans tous les pays, il n'y ait pas de forgerons. De sorte que l'armée d'Israël allait aiguiser leurs armes chez l'ennemi philistin. Et les Philistins s'arrangeaient de ne pas livrer les armes déjà arrangées. Ils jouaient au retard jusqu'à ce qu'ils aient confisqué toute l'armure d'Israël. C'est ça le contexte au chapitre 13. Puis, la guerre doit commencer au chapitre 14. Il est écrit au verset 22, 13-22, « Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tous les peuples qui étaient avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Deux personnes ont une arme dans le pays. Qu'est-ce qu'on va faire? Commençons à fuir. L'ennemi arrive, non? Un jeune homme vaillant, Jonathan, le fils de Saül, dit au chapitre 14, verset 1er, un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons-nous jusqu'au poste des Philistins qui est là, de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Verset 5, 6, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. » Écoutez la leçon. « Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien... » On peut lire ça ensemble? 1, 2, 3, « Car... » rien n'empêche à l'Éternel de sauver au moyen des petits nombres comme des grands nombres. On peut le redire, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme des grands nombres. Tu peux mémoriser ça un instant. Car rien n'empêche à l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme des grands nombres. Encore une fois, car rien n'empêche à l'Éternel. Qu'est-ce que tu as compris, David? Qu'est-ce que tu as compris, Jonathan? J'ai compris que moi, avec Dieu, nous constituons la majorité. J'ai compris que si je décide d'être comme mon maître, un vaillant jeune homme, un vaillant papa, avec Dieu, j'irai. J'accomplirai et je verrai la gloire de Dieu. Alléluia. Quelle empreinte, je vais terminer par ce point. L'empreinte de la vie des disciples dans une église locale. Lorsque vous avez comme membres de l'église des hommes comme David, des hommes comme Jonathan, des hommes comme Jésus, on aime chanter ça, j'aime être comme Jésus. Vous avez déjà chanté ça? Je voudrais être comme Jésus toute ma vie. Je veux être, tu veux être comme Jésus quoi? Son manteau, sans couture, que les brigands ont partagé, sa longue barbe. Tu veux être comme Jésus? Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Quoi? Voici ce qu'il faut prendre. Vaillant comme notre maître. Dans une église locale, à Sébéka Ouest, je vous prie, je vous supplie ce matin. Dites à ton voisin, écoute ce que le pasteur veut dire. Dans une église locale, Lorsque les hommes et les femmes, les jeunes et les enfants deviennent des vaillants, c'est fini. C'est le décollage, c'est le départ. C'est le départ. Maintenant, aide-moi à dire aux voisins, on n'attend que toi. Wenjunabaki, Wambi. Dis-lui, moi j'ai déjà pris ma décision. Wenjunabaki, c'est toi qui restes. Dis-lui sincèrement. Dis-lui, on n'attend plus que toi. Dans une église locale, comme Goma Ouest, lorsque toi et moi, hommes et femmes, nous décidons d'être vaillants, qu'est-ce qui va arriver? L'église deviendra vivante. Et les âmes vont accourir dans cette église-là. Vous savez, dans notre monde, les gens cherchent une église vivante. Les gens cherchent une église où ils vont entrer et ils vont sentir que la vie est là. Où ils vont entrer et ils vont avoir leurs problèmes résolus. Ils vont entrer, ils vont trouver que Jésus est présent. Et ils vont dire à Jésus, j'ai mal ici au dos, et Jésus va arranger ça. Ils vont dire à Jésus, j'ai besoin de me marier, et il va arranger ça. Ils vont dire à Jésus, je veux te servir, je veux entrer dans ton équipe. Et Jésus va dire, viens, je vous attendais. Une église vivante. Vous voulez une église vivante? Je peux voir celui qui veut une église vivante. En levant la main, tu acceptes d'être parmi ceux qui vont la rendre vivante. Acclame-toi toi-même. On peut citer plusieurs empreintes, comme devenir une église prolifique, une église qui grandit spirituellement, numériquement, c'est-à-dire en nombre, et qui grandit grâce aux vaillants qui sont dedans, les disciples. 3. Elle est caractérisée par la plénitude du Saint-Esprit. Cette église-là, parce qu'elle est vaillante, pour fonctionner, il a besoin du Saint-Esprit. Et quand toi, tu vas vouloir commencer à fonctionner comme vaillant, tu vas dépendre du Saint-Esprit, tu vas recourir au Saint-Esprit, tu vas chercher la plénitude, tu vas t'attacher à l'Esprit. Et la présence de Dieu en toi, en l'autre, la plénitude du Saint-Esprit en nous tous va remplir la salle. Et la gloire de Dieu sera là. Et quiconque essayera de venir prier avec nous, il va se rendre compte qu'il n'est jamais entré dans une telle église. Car la gloire est là. Quatrièmement, cette église brille comme un flambeau dans le monde. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'en parler. La présence de cette église dans Himbi va briller d'elle-même. Elle va briller. Briller par non seulement la présence des hommes et des femmes qui sont bénis, mais briller par la gloire spirituelle qui va monter en ces lieux. Les esprits vont passer. Avez-vous vu ce genre d'expérience où les sorciers, dit-on, qui passent dans les airs, tombent parce qu'ils rencontrent la présence de Dieu dans l'atmosphère? Les sorciers vont commencer à tomber ici. Oh, j'allais où? J'allais à Minova et puis j'ai passé ici. J'ai senti le feu là. Kikapo kikalungula nikanguka chini. Sasa wewe ungali unaenda mubikapo, tunaenda sisi tunaenda mu Roho Mtakatifu. Wewe unaenda mubikapu, suachana bikapu, tawambia ingia umu, okoke we pale, okoka pale. C'est-à-dire, il y a non seulement la gloire physique, la gloire humaine. Paul, quand il était à la montagne, il brillait, n'est-ce pas? Mais la gloire spirituelle, c'est cette force spirituelle autour de l'église, dans l'église, et qui affecte le quartier. Cette gloire qui monte lorsque toi et moi, nous sommes devenus vaillants. Nous courons avec le Maître Jésus-Christ. Cinquièmement, cette église s'enlace dans la prière comme mode de vie. Sixièmement, les membres gagnent les âmes constamment comme mode de vie. J'insiste sur ceci. Tu es vaillant sur la terre pour faire quoi? C'est pas pour attraper des richesses, pour chercher l'argent. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, je suis vaillant pour gagner l'argent. Ça n'a rien à faire. Cela, ce sont des bénéfices collatéraux.
Mais le bénéfice principal, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes. Les vaillants vont être vaillants dans leur force pour amener les perdus au salut. Septièmement, les disciples sont disciplinés et vivent et mènent une vie radicale pour Christ. Je suis radical pour Christ. Hein? Paul dit dans Actes 20-24, je ne fais aucun cas de ma vie. Je suis radical, même envers moi-même. Envers moi-même. Je n'ai pas pitié de moi. Je ne m'apitoie pas sur moi-même quand il s'agit de mon maître Jésus. Je fonce, quoi que ça me coûte. Si je dois maigrir dans les jeûnes, je vais maigrir. Huitièmement, cette église locale répand l'essence de la piété. Et neuvièmement, elle porte beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu. Regardez, quelqu'un qui a été vaillant, ce qu'il prononce à la fin de sa vie. De Samuel chapitre 23, versets 1 à 5. David, je veux que nous puissions nous lever et lire cela en étant debout. Et puis nous allons prier. Dans Hébreux 12, versets 1 et 2, il est écrit, « Puisque nous sommes entourés de si grand nombre de témoins, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Regardons la fin d'un vaillant, la fin d'un témoin vaillant. Lisons ensemble, du premier verset au cinquième, 1, 2, 3. Voici, vous êtes là? Nous lisons ensemble. Allons-y. Je peux voir les Bibles qui sont là, s'il vous plaît. Les médias parfois handicapent les gens. Vous n'avez plus amené votre Bible parce qu'il y a le média ici. Voyez l'inconvénient. Alléluia. Allons-y, on lit ensemble. Verset 1 et suivant. 1, 2, 3, à haute voix. Voici les dernières paroles de David. Je ne vous entends pas, s'il vous plaît. Média, vous avez manqué le texte de Samuel 23, 1 à 5. On attend le média. Ok, allons-y, ils ont trouvé. 1, 2, 3. Les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé. Des loins du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Ses rayons après la pluie font sortir des terres la verdure. Verset 5, n'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée, offrant pleine sécurité, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Amen. Les dieux qui a marché avec ce jeune homme depuis son jeune âge et qui a fait de lui un vaillant, il veut le faire avec toi ce matin. Je vais faire trois appels. Le premier, c'est que si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le temps de le faire. Recueillons-nous dans la prière. Recueillons-nous s'il vous plaît. Le chemin ou la porte vers le chemin de la vaillance, c'est la conversion authentique. Peut-être tu as été victime de la fausse conversion. Les faux convertis ne sauront pas être vaillants pour Dieu. Tu veux lever ta main, je vais prier avec toi. Là où tu te trouves, je vais prier avec toi. Tu veux dire, Seigneur, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je dois rentabiliser ma vie. Ma vie est en train de se gaspiller comme ça. Lève la main, j'ai prié avec toi. Merci ma sœur. On veut gagner le temps, nous prions le Seigneur avec les bien-aimés. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je sais que certains auront honte de lever leurs mains.
Prie aussi. Ce n'est pas le fait de lever les mains qui est quelque chose. Prie dans ton cœur là où tu te trouves. Dites, Seigneur mon Dieu, j'ai longuement marché sans toi. Et ce matin, je viens te donner ma vie. Pardonne-moi, pardonne mon passé coupable. Aujourd'hui, je te demande pardon. Et je t'invite dans mon cœur, sauve-moi Seigneur. Je veux vivre et je veux marcher avec toi. Je veux aller dans cette équipe des vaillants que tu suscites dans notre église. Prends ma vie Seigneur et amène-moi à l'exemple de Jésus-Christ, mon maître. Je te suivrai toute ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je fais le deuxième appel. C'est celui qui est ici et qui a été juste chrétien. Tu as toujours été juste un chrétien. Ta vie n'a aucun impact. Ta vie ne va nulle part. Tu es juste chrétien. Le Seigneur est venu te dire, viens dans l'équipe. Il est venu te dire, viens dans mon équipe. Je suis vaillant moi-même, Jésus. Viens dans mon équipe. Nous avons des intérêts divins à accomplir. Nous avons des combats à remporter. Nous avons des missions à accomplir sur toute la terre. Viens avec moi. Et tu veux dire, Seigneur, je suis d'accord. Le troisième appel, c'est celui qui était déjà vaillant. Dans une certaine période de ton parcours chrétien, tu as fonctionné comme un vaillant, mais puis ça s'est éteint. Tu veux dire, je renouvelle mon engagement. Et nous levons nos mains tous et nous prions. Dites, Seigneur mon Dieu, prie avec moi. Dites, Seigneur mon Dieu, ta parole est la vérité. Je l'ai écoutée, je l'ai comprise. Je pense que je n'ai pas de choix. Parce que toi-même, tu as été le modèle de la vaillance. Et ton serviteur Paul nous a dit, ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez vaillants d'esprit, servez l'Éternel. Mon Dieu, j'accepte. J'accepte d'être vaillant pour toi et de marcher avec toi jusqu'à ce que tu reviennes. Oh mon Dieu, rentabilise le reste de ma destinée. Rentabilise le reste de ma vie chrétienne dans une marche puissante. Enflamme mon cœur. Touche-moi, Seigneur. Enflamme mon esprit. Ouvre mes yeux, que je voie là où tu m'attends. Ouvre mes yeux et ouvre mon cœur, afin que je sache comment m'y prendre.